Trois jours de visite avant de quitter la Calédonie hier soir. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont fait un bilan de leur séjour. Tremblement de terre hier soir, il n'a pas été répertorié par les organismes spécialisés, mais il a été ressenti par de nombreux habitants de Nouméa, du Mont-d'Or et de Dumbéa. 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen. Des réquisitions incompréhensibles, selon elle, dans le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. Notre-Dame de Paris bientôt réouverte. Le programme des festivités a été dévoilé. Elles débuteront le 7 décembre. Et puis en sport, match important pour la sélection calédonienne de football. Elle affronte les Salomon dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde en début d'après-midi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les élections pour le renouvellement des élus de la CCI sont en cours. L'occasion de nous pencher dans les jeudis de l'économie dès la fin de ce journal sur le rôle et les missions de la Chambre de commerce et d'industrie. Comment est-elle organisée? Comment fonctionne-t-elle? Nous en parlerons avec nos 3 invités. Charles Roger, le directeur général de la CCI, Lamia Stambouli, qui en est la secrétaire générale, et Jennifer Martin-Rodriguez, la directrice des affaires juridiques. Rendez-vous donc dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dès la fin de ce journal. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont repris l'avion pour Paris la nuit dernière pour nous. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale sont restés 3 jours en Nouvelle-Calédonie. Un déplacement inédit des présidents des 2 chambres parlementaires pour souligner, ont-ils rappelé, l'urgence de la situation calédonienne. Une urgence économique et sociale, bien sûr, mais aussi une urgence à retrouver les voies d'un avenir apaisé. Ils s'en sont longuement expliqués dans une interview qu'ils ont accordée hier soir avant leur départ à 3 médias, dont Radio Rythme Bleu. Interview que nous avons diffusée en direct hier à 19h. Et c'est vous, Elisabeth Noir, qui était présente pour Radio Rythme Bleu.
Et Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont tenu à faire passer des messages positifs et apaisés. Ils ont décidé de rencontrer des interlocuteurs de tous bords, soucieux de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la Calédonie. Et il faut d'abord retrouver une situation sécuritaire normale, a insisté le président du Sénat, Gérard Larcher.
Toute violence, toute émeute dans un état de droit est condamnable et doit être condamnée. Que les choses soient claires, on peut chercher les causes, les explications. Mais dans un état de droit, la violence est inacceptable. Surtout, on le voit bien, ses conséquences, elles touchent souvent les plus faibles. Ceux qui ont le moins de moyens à être en capacité à réagir par rapport à cette violence. Retrouver la confiance, j'y reviens, c'est aussi assurer la sécurité et l'état de droit. C'est aussi une attente, pas simplement du monde économique, mais aussi des citoyens dans leur vie quotidienne, dans la liberté d'aller et venir, dans la liberté de vivre tranquillement dans son quartier, de ne pas être dans l'obligation de devoir le quitter au prétexte de je ne sais quel motif à caractère, parfois, il faut dire les choses, ethnique ou raciaux. Ça, ce n'est pas notre conception de la République.
Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher sont aussi conscients que la Calédonie a besoin d'un accompagnement financier. La présidente de l'Assemblée nationale a confirmé qu'elle allait soutenir avec le président Larcher les amendements introduits par le ministre des Outre-mer et les parlementaires calédoniens dans le projet de loi de finances actuellement à l'examen. Au cours de cette interview, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée ont exprimé leur attachement très fort à la Calédonie. Leur déplacement commun en est la preuve, ont-ils répété. Ils ont aussi indiqué que dans les prochains jours, ils feront un retour sur leur voyage au président de la République et au Premier ministre. Yaël Braun-Pivet a affirmé que ce voyage ne restera pas sans lendemain.
C'est la première fois que des présidents d'assemblée font un déplacement commun. Dans cette visite exceptionnelle, nous avions le souhait aussi de dire cette considération à chacun et dire simplement que la Nouvelle-Calédonie compte. Elle compte pour le Parlement, elle compte pour la France. Et donc, nous ne nous arrêterons pas là. C'est le début de notre histoire commune.
Cette interview était donc la dernière séance publique du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale qui auront passé 3 jours en Nouvelle-Calédonie. Ils ont quitté la Calédonie hier soir pour Paris.
Et au lendemain de cette visite, c'est Sonia Backès, la présidente de la province sud et présidente des Républicains calédoniens, qui était ce matin notre invitée à 7h30.
Sonia Backès qui porte un jugement un peu mitigé sur la visite des 2 présidents de chambre, avec selon elle du négatif et du positif. Et elle a regretté certaines déclarations un peu ambiguës. Quand elle a reçu Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée à la province sud, elle les a mis en garde sur le comportement de l'Union calédonienne.
Je leur ai surtout dit qu'il ne fallait plus être naïf, en particulier avec l'Union calédonienne. L'Union calédonienne a, excusez-moi du terme, baladé Gérard Darmanin pendant 2 ans et demi en lui faisant croire qu'il allait avoir une bonne volonté, des solutions. Vous savez, on n'a pas le choix, on va être obligé de se parler, on est obligé de travailler ensemble. Mais je crois qu'il faut simplement qu'il n'y ait plus de naïveté. Voilà. Et c'est le message principal qu'on a fait passer, parce qu'arriver en Nouvelle-Calédonie en disant un accord, évidemment tout le monde veut un accord, tout le monde veut la paix dans le monde, mais aujourd'hui on a des responsables indépendantistes qui considèrent que ce qui s'est passé le 13 mai leur donne le droit d'avoir la souveraineté pleine et entière dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, alors qu'au contraire ils ont tout cassé et que ça ne remet pas en cause les trois référendums où on a répondu non à l'indépendance.
Beaucoup d'interrogations autour de l'Union calédonienne, selon Sonia Baquès, qui se demande ce qu'il va sortir de leur prochain congrès. On est prêt à discuter, dit-elle, c'est indispensable, mais pour l'instant, il n'y a pas de pardon.
Je ne veux pas être dans un optimisme béat. Ils nous ont beaucoup menti avant le 13 mai. Ils ont tout cassé. Ils ont encouragé, créé la CCAT. Certains aujourd'hui disent que ce n'est pas eux. D'autres disent que c'était nous, mais on n'a pas voulu tout ça. C'était pacifique. Enfin bon, tout ça n'est pas quand même très assumé. Donc moi, j'attends de voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous dit à Gérard Larcher et à Yaël Braun-Pivet qu'on allait discuter de bonne foi, qu'on allait se mettre autour de la table avec ceux qui veulent se mettre autour de la table, qu'on allait construire, qu'on allait chercher un accord. Mais tout ça se fait sans naïveté et sans pardon. Je crois qu'on peut et on a la responsabilité de chercher une solution institutionnelle, mais ce n'est pas pour ça qu'on pardonne.
Sonia Baquès salue les propos et les positionnements de Gérard Larcher, le président du Sénat. En revanche, elle a dit à Yaël Braun-Pivet, elle a regretté auprès de Yaël Braun-Pivet sa naïveté ou son ultra-bienveillance envers la CCAT.
Moi, je me suis étonnée du fait qu'en métropole, elle considère qu'on ne doit parler qu'avec l'arc républicain. Vous savez, c'est cet arc qui exclut le Rassemblement national et LFI. Alors même qu'ici, finalement, elle considère que nos extrémistes à nous, qui ont tout cassé, qui feraient pâlir Mélenchon dans leur capacité à mettre le feu au pays, finalement, eux, ils sont fréquentables ici. Bon, je crois que de la même manière qu'elle nous dit, c'est facile de trouver un accord ici, alors que en métropole, on a bien vu qu'elle n'a pas trouvé d'accord sur son budget. Donc, je crois qu'il faut être humble et pas venir ici pour nous faire la leçon. On va faire ce qu'on peut. Notre responsabilité, c'est de trouver une solution. On va faire tout ce qu'on peut pour trouver cette solution sans naïveté et dans le respect de la démocratie.
Sonia Baquès qui ajoute qu'il faut savoir si l'UC est capable d'évoluer. Il existe, dit-elle, des solutions pour plus d'autonomie et plus de reconnaissance identitaire, mais en respectant la volonté des Calédoniens de rester français. Sonia Baquès qui confirme qu'il y aura bien un déplacement à Paris des différents responsables calédoniens avant le 5 décembre, dans le cadre notamment des solutions financières à apporter à la situation de la Nouvelle-Calédonie.
Et lors de leur séjour en Nouvelle-Calédonie, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont signé une déclaration d'intention avec la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit, ont-ils expliqué, d'une première étape vers l'élaboration d'une convention de partenariat plus détaillée qui sera travaillée et finalisée dans les semaines à venir. Toujours à propos du Congrès, on se souvient que la nouvelle présidente Velma Falaheo avait dénoncé la signature du fameux mémorandum entre le Parlement azerbaïdjanais et le Congrès, alors présidé par Rokoué Mitan. Un document nul et non avenu, sans valeur juridique, il avait été signé par Omeran Eslin. L'Azerbaïdjan qui poursuit ses actions de déstabilisation envers la France. Dans un discours à la COP29 à Bakou, le président azerbaïdjanais Aliyev a réitéré ses attaques contre Paris. La liste des crimes commis par la France dans ses soi-disant territoires d'outre-mer ne serait pas complète sans mentionner les récentes violations des droits de l'homme commises par le régime, a-t-il déclaré, accusant, je cite toujours, le régime Macron en France d'avoir tué 13 personnes en Nouvelle-Calédonie. Une nouvelle charge qui a très fortement déplu à Paris. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé dans la foulée qu'elle ne se rendrait pas à cette COP29.
La France a été frappée par les propos inacceptables qui ont été tenus par le président Aliyev, non seulement à l'encontre de nos institutions, de notre pays, de nos territoires, mais également à l'encontre de l'Europe. Dans ces conditions, je ne me rendrai pas à la COP pour la finalisation des négociations, mais les équipes françaises seront à la COP, elles seront dans toutes les salles de négociation. Elles porteront notre agenda, que ce soit sur la sortie des énergies fossiles, mais également sur les droits de l'homme, car à la COP, on négocie aussi sur les droits de l'homme. Et je peux vous dire que nous sommes déterminés pour porter des positions très ambitieuses en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
Les relations entre Paris et Bakou sont donc de nouveau très tendues. Le régime de Bakou se livre à des attaques systématiques contre la France depuis que Paris a dénoncé l'épuration ethnique pratiquée par le régime d'Aliyev à l'encontre des Arméniens, notamment dans le Haut-Karabakh.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Êtes-vous choqué que la COP29, la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, soit organisée à Bakou, en Azerbaïdjan ? Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 64% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits des propos tenus par Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet dans leur discours devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 36% à ne pas être satisfaits. Il est 11h41, une première pause dans ce journal. Dans un instant, c'est le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme à visiter dès à présent en concession au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite bonne route.
Urbanisme et construction durable, perspective des matériaux biosourcés, valoriser ressources et déchets du BTP, métiers d'avenir et nouvelles technologies. Rendez-vous mardi 19 novembre 2024 à 7h30 au Théâtre de Lille pour la Biennale de la Construction 2024. Entrée libre. Infos et inscriptions sur rcnc.gouv.nc, Facebook et LinkedIn, Biennale de la Construction Nouvelle-Calédonie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Tremblement de terre ou explosion? Certains se sont posé la question, mais c'est bien un tremblement de terre qui a été ressenti hier soir vers 22h30 par de nombreux habitants de Nouméa, du Mont-d'Or et de Dumbéa. Pour autant, aucune secousse n'a officiellement été répertoriée par les organismes spécialisés. La DSCGR a donc demandé à l'IRD de faire des recherches pour apporter des réponses. Notez qu'hier après-midi, aux alentours de 16h20, un séisme d'une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter a également été ressenti au sud des îles Loyauté. Au chapitre politique, l'UPM dresse le bilan de son 41e congrès qui était réuni les 9 et 10 et 11 novembre à Poum. Il réitère la nécessité d'une clarification des stratégies du FLNKS après le rassemblement tenu à Koumac à la fin du mois d'août, Elisabeth.
L'alternative unie au FLNKS, c'est le thème de l'une des motions adoptées par ce 41e congrès dans laquelle l'UPM réitère effectivement la nécessité de clarifier les choses après le congrès du FLNKS qui avait été boudé par le Palika et par l'UPM. L'UPM qui confirme qu'il suspend sa participation aux réunions du bureau politique du FLNKS tant que cette clarification n'aura pas lieu et qui confirme que l'UNI est un outil fiable pour continuer les discussions politiques avec toutes les parties prenantes. On écoute Victor Toutougoureau, le président de l'UPM.
Nous avons rappelé que nous ne sommes pas d'accord avec la motion du 42e congrès du FLNKS, mais nous avons toujours été d'accord sur les autres motions des congrès précédents. Nous avons demandé clarification sur la stratégie du FLNKS. Donc, à partir de cette motion, nous avons indiqué à notre comité central de septembre, ici, même dans cette salle, que nous ne nous reconnaissons pas dans ce qui a été fait et que nous ne participons pas au fonctionnement du FLNKS. Et donc, le congrès a confirmé cette vision, cette tendance pour dire, nous n'allons pas revenir au FLNKS aujourd'hui, nous n'allons pas revenir dans le fonctionnement du FLNKS, du bureau politique. Nous allons conforter notre participation dans l'Union nationale pour l'indépendance et participer à ce que la structure porte davantage la vision d'avenir qui est celle de l'indépendance en partenariat et de la souveraineté partagée.
Des positionnements qui sont confirmés dans la motion de politique générale qui a été adopté également par le 41e congrès, dans lequel l'UPM déclare vouloir continuer à promouvoir son projet d'indépendance en partenariat avec la puissance de tutelle au travers du futur accord global et poursuivre les discussions et les négociations sur l'avenir institutionnel sous le format de l'UNI, l'Union nationale pour l'indépendance. Le 41e congrès de l'UPM qui a également adopté une motion qui concerne le foncier coutumier.
Et puis un nouveau collectif vient de voir le jour, le D2R pour dispositif reconstruction et rééquilibrage, porté par Anthony Lecrin qui le présente comme une démarche citoyenne qui a pour objectif de changer le modèle économique et social. Son objectif est de permettre l'insertion des jeunes en rupture sur les marchés de la déconstruction puis du BTP. Anthony Lecrin, porte-parole du D2R.
Le public qu'on vise, c'est les personnes peu ou pas qualifiées et qui sont généralement voilà, dans les quartiers nord en difficulté. On a réuni autour d'entreprises qui sont volontaires, hein, donc c'est un groupement momentané d'entreprises, un collectif de coutumiers, un collectif des quartiers, un dispositif qui vise en priorité la formation et l'insertion. La situation, on est en phase de reconstruction et paradoxalement, on parle de démolition, notamment de tous les établissements qui ont été touchés pour déjà s'ancrer dans la reconstruction du pays.
Un collectif auquel adhère le syndicat des rouleurs payés et qui entend aussi faire des propositions de modèles de société aux institutions. Et puis le Nouméa Women's Forum revient pour la 4e édition, sous le signe cette fois-ci de l'adaptation et de l'innovation, Léo Fichou.
Et face aux exactions du 13 mai et à la destruction du tissu économique et social du territoire, les organisateurs ont dû réinventer le forum pour, disent-ils, préserver le lien unique créé au fil des 3 premières éditions et continuer d'offrir un espace où les femmes peuvent se retrouver, échanger, parler d'avenir et partager leurs perspectives. Les explications de Naya Watéou, élue à la province sud, c'est elle qui est à l'origine du Nouméa Women's Forum.
L'objectif du Nouméa Women's Forum, c'était de pouvoir parler autrement des femmes que par le biais des violences intrafamiliales, sans mettre un tapis sur le sujet, mais de parler aussi de ces femmes qui réussissent, qui ont envie d'entreprendre, de ces femmes qui sont des modèles accessibles pour nos jeunes filles, et finalement de pouvoir apporter un peu plus de positivisme sur cette action. Ce forum, il s'inscrit dans la démarche aussi de développement économique que porte la province sud, et finalement de pouvoir accorder ces différentes actions, qui sont très concrètes aussi, comment accompagner les femmes dans leur démarche d'entreprendre, pas toujours sur le secteur de l'économie, mais d'entreprendre largement. Et on le voit, les femmes sont moteurs, que ce soit sur le plan de l'économie, que ce soit sur le plan associatif. C'était important de pouvoir mettre en avant ces actions et ces initiatives. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir se faire se coordonner deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, l'entrepreneuriat au féminin, mais aussi l'économie sociale et solidaire.
Et la 4e édition du Nouméa Women's Forum aura lieu à la fin du mois, les 26, 28 et 29 novembre au FOL, mais aussi au centre administratif de la province sud.
Voilà, ça se tient donc à la FOL. En bref, le don du sang innove pour la toute première fois. Le centre ouvrira de 7h15 à 18h aujourd'hui. Un élargissement des horaires d'ouverture pour permettre à un maximum de Calédoniens de donner leur sang pour sauver des vies. Un planning de réservation est disponible sur le site www.dondusang.nc. Vous pouvez aussi vous présenter évidemment directement dans les locaux qui sont donc ouverts aujourd'hui en continu depuis 7h15 et jusqu'à 18h. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Des actions de dépistage sont menées depuis le début de la semaine par l'Association des diabétiques. Et aujourd'hui, l'Agence sanitaire et sociale tient un stand d'information et de dépistage gratuit dans la galerie commerciale de l'Hyper-U de Païta. L'actualité dans la région et même dans la grande région, avec la visite annoncée du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, une grande tournée qui va le mener notamment aux îles Fidji, mais aussi en Australie, Jean-Pierre Zajac.
Dans le cadre de son 12e voyage dans la zone, Lloyd Austin se rendra d'abord à Darwin, où il rencontrera plusieurs membres du ministère australien de la Défense et rendra également visite au détachement de Marines américains qui y est déployé. Le secrétaire Austin effectuera ensuite sa 4e visite officielle à Manille, où il fera notamment, je cite, « progresser les objectifs de sécurité avec les dirigeants philippins avant de rencontrer les forces américaines et philippines ». Il participera ensuite à la réunion des ministres de la Défense de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou ASEAN, qui se tiendra au Laos le 21 novembre. Son voyage régional s'achèvera par les îles Fidji, y marquant ainsi la toute première visite d'un secrétaire américain à la Défense. Des rencontres destinées à approfondir les relations bilatérales en matière de défense sont notamment prévues avec les principaux dirigeants fidjiens. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et à 11h50, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et notamment les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen dans le procès dit des assistants parlementaires du Rassemblement national.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Laissez-vous séduire par le nouveau Hyundai Santa Fe hybride, un SUV qui allie élégance et puissance sur la route. Profitez de son espace généreux et de son intérieur luxueux, conçu pour offrir un confort optimal. Avec sa motorisation hybride, le Santa Fe combine puissance et réduction des émissions, idéal pour vos aventures et déplacements quotidiens. N'attendez plus pour vivre cette expérience unique. Rendez-vous dans notre showroom Hyundai à Ducos pour découvrir le nouveau Santa Fe ou réserver un essai sur notre site hyundai.nc.
Depuis quand tu fais autant les magasins?
J'ai trouvé le secret pour dépenser moins.
Ah ouais? T'as gagné au bingo ou quoi?
Mieux que ça, j'ai découvert l'appli MDF avec le pass MDF. Ça te donne accès à des tarifs avantageux.
Sérieux? T'as chopé ça où?
Vous êtes adhérent de la MDF? Alors téléchargez l'application dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mdf.nc.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le lecteur Métropole, avec vous Jean-François Bodin.
Et si le tribunal judiciaire suit les réquisitions du parquet, l'avenir politique de Marine Le Pen risque de s'assombrir. Le tribunal jugeait l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national au Parlement européen. La justice soupçonne que ces assistants payés par le Parlement travaillaient en fait à des tâches politiques en métropole. La procureure a réclamé 5 ans de prison dont 2 fermes et une peine de 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen, tout en reconnaissant qu'il n'y avait rien dans le dossier, ce qui a fait vivement réagir Marine Le Pen à la sortie de l'audience.
C'est la chronique annoncée de l'inéligibilité réclamée. Ça n'est pas une surprise. Il y a eu au moins un événement qui aurait pu nous faire sourire si les faits n'étaient pas, somme toute, aussi graves et les enjeux aussi importants. C'est l'aveu de Madame la procureure. Quand elle a dit, écoutez, sur ce contrat, je n'ai absolument aucun élément, mais je ne peux pas réclamer la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Bon, écoutez, quand un procureur est capable de dire une chose pareille, il ne faut pas s'étonner après de la violence de ces réquisitions, de l'outrance de ces réquisitions. Je souhaite que le tribunal ne suive pas le parquet et entende, encore une fois, l'ensemble des arguments que nous avons pu développer. J'avoue que j'ai été assez choqué d'entendre le représentant de la société, car le procureur est le représentant de la société, reprocher à des justiciables que nous sommes d'user de leurs droits, comme si user de nos droits était un abus de droit.
Les audiences vont reprendre dès lundi dans ce procès et ce sera au tour de la défense de plaider pendant 2 semaines. L'actualité sociale et les agriculteurs relancent la contestation. Comme lors de leur vaste mouvement du début d'année, ils contestent toujours la signature des traités de libre-échange, les contraintes imposées à la profession et la faiblesse des revenus des agriculteurs. Les deux principaux syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, appellent donc à de nouvelles manifestations. Elles vont débuter dès lundi. Margot Faudéré pour Europe 1.
Deux syndicats seront en action dans la majorité des départements lundi prochain, mardi aussi pour certains. Les mobilisations auront lieu devant les préfectures ou sur des ronds-points pour lancer un mouvement, je cite, sans violence et qui se fera en 3 étapes. Première étape lundi. Et pourquoi lundi? La réponse d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA.
Parce que lundi s'ouvre à Rio de Janeiro, le G20 au Brésil, autour notamment de ce sujet du Mercosur. Comment peut-on signer un accord commercial avec des pays du monde qui ont aujourd'hui des conditions de production qui ne respectent en rien notre modèle de production?
Les deux étapes suivantes porteront sur la simplification et les revenus des exploitants. Pour le moment, les dates n'ont pas encore été arrêtées, mais le mouvement doit durer jusqu'à la mi-décembre. Pas question pour autant de perturber les fêtes de Noël. C'est en tout cas ce qu'a assuré Pierre Corel, le président des jeunes agriculteurs.
On ne veut pas prendre les personnes en otage. Quand on dit manifestation responsable, c'est ça aussi. Je pense qu'on sera tous en capacité d'observer une trêve si toutefois ça devait aller au moins jusque-là.
La FNSEA précise toutefois que le mouvement pourrait repartir en janvier si nécessaire.
Et toujours au chapitre social, 300 personnes ont manifesté devant le siège de Michelin à Clermont-Ferrand. Manifestation de colère après l'annonce du groupe de la fermeture d'ici 2026 de 2 de ses usines, à Vannes et à Cholet. 1254 emplois devraient être supprimés. On connaît le planning des festivités prévues pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Les travaux de la cathédrale, gravement endommagée par un incendie il y a 5 ans, sont terminés. Emmanuel Macron y effectuera une ultime visite à la fin du mois, avant des célébrations de réouverture qui débuteront le 7 décembre. Le programme avec Antoine Bienveau.
Notre-Dame entamera sa résurrection le samedi 7 décembre par un discours d'Emmanuel Macron sur le parvis de Notre-Dame et non à l'intérieur de la cathédrale comme cela avait été évoqué. Une prise de parole à laquelle assisteront de nombreux invités politiques, ecclésiastiques, mais aussi les mécènes ayant participé au financement de la restauration. Le président devrait en profiter pour saluer le travail de tous les acteurs ayant pris part au chantier. Le soir, un concert géant viendra clore cette première journée de cérémonie avant de laisser place le lendemain à la messe de réouverture. L'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, qui prononcera notamment son homélie devant 170 évêques de France et du monde entier. Un moment très attendu par Mgr Ribadeau-Dumas, recteur de la cathédrale.
Il est temps maintenant de retrouver Notre-Dame. Les lustres brillent, la lumière magnifie l'ensemble. Tout est beau, tout invite à la prière. Je suis très reconnaissant à ceux qui ont permis cette résurrection pour que nous puissions retrouver Notre-Dame.
Après la messe inaugurale du 8 décembre, d'autres offices suivront toute la semaine, notamment le 15 décembre, en présence des pompiers de Paris et des compagnons ayant œuvré sur le chantier.
On en vient maintenant à l'actualité à l'étranger. Il y a quelques semaines encore, ils s'étripaient en public. Ils font aujourd'hui assaut d'amabilité. Joe Biden a reçu Donald Trump à la Maison-Blanche, une entrevue qualifiée de très cordiale pour préparer une transition qu'ils disent tous les deux vouloir apaiser. La correspondance d'Aviva Fried pour Europe 1.
Monsieur le président élu, monsieur l'ancien président, Donald, félicitations, bienvenue et bon retour.
Vous l'avez entendu, hein, Joe Biden a accueilli son successeur de manière cordiale dans le bureau ovale devant un feu de bois. Une mise en scène destinée à projeter la convivialité et l'unité. C'est la première fois que Joe Biden et Donald Trump se voient depuis le débat de juin dernier, au cours duquel le président actuel avait traité son futur successeur de criminel. Ambiance totalement différente aujourd'hui donc. Joe Biden, très attaché au décorum de sa fonction, voulait montrer à la nation qu'une transition pacifique était possible, même si lui en avait été privé il y a 4 ans. Et Donald Trump a joué le jeu.
La politique, c'est dur et souvent ce n'est pas un monde très agréable. Mais c'est un monde agréable aujourd'hui. Et j'apprécie vraiment une transition aussi fluide. Ce sera la transition la plus fluide possible.
Les deux hommes se sont ensuite entretenus en privé, notamment sur le soutien à l'Ukraine. Une discussion qui n'aura sans doute aucun impact sur la politique du 47e président des États-Unis. Mais pour quelques minutes au moins, le pays a affiché un visage apaisé.
11h57, l'heure d'une dernière pause dans ce journal avant de retrouver l'actualité sportive. Ce sera ensuite les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Protégez votre maison ou votre entreprise avec NeoProtect NC. Nos systèmes d'alarme intrusion, de vidéoprotection vous assurent une tranquillité 24h sur 24. Avec NeoProtect NC, choisissez la sérénité et la simplicité au quotidien. Plus d'infos au 94 18 13. Facebook NeoProtect NC.
Le Salon Toyota 2024, du 15 au 17 novembre à la Maison des Artisans. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs, mais aussi sur les véhicules d'occasion. Venez découvrir la gamme Toyota et les dernières nouveautés. Alors rendez-vous du 15 au 17 novembre à la Maison des Artisans. Et le Salon Toyota, c'est aussi chez Nord Motors Kone.
Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Réouverture de la Maison du Pain Calédonien, votre boulangerie du PK4 au 186 rue Jacques Yekaoué. Venez vite redécouvrir votre boulangerie et retrouver nos pains fraîchement sortis du four dès 6h du lundi au samedi. Et retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook Le 4.
Complexe Le 4 au 186 rue Jacques Yekaoué. Faites vos courses autrement.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on va parler football pour ouvrir cette page de sport. La sélection de Nouvelle-Calédonie joue un match capital pour la qualification à la Coupe du Monde cet après-midi, Léo Fichou.
Et dans tout pile 2h à 14h, les Cagous disputent le deuxième match des phases de poule face aux îles Salomon. La rencontre sera à suivre en direct sur le site internet FIFA+. Un match important puisqu'en cas de victoire, les joueurs de Johan Zidaner se rapprocheraient des demi-finales. On le rappelle, ils avaient remporté leur premier match 3-1 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Attention tout de même, il restera un troisième match des phases de poule dimanche contre les Fidji. Objectif, 3 victoires en 3 matchs permettraient aux Calédoniens de terminer premier du groupe et d'éviter la Nouvelle-Zélande en demi-finale.
On passe au tennis avec la suite du Masters de Turin et ce matin, Carlos Alcaraz a dominé Andrei Rublev.
L'Espagnol numéro 3 mondial s'est imposé 6-3-7-6 et se relance donc après sa défaite lors du premier match contre Casper Ruud, le Norvégien qui lui a perdu ce matin contre Alexander Zverev, une défaite 6-7-3-6. L'Allemand est donc seul en tête au groupe du groupe B avec 2 victoires en 2 matchs. Derrière lui, Alcaraz et Ruud ont chacun 1 victoire et 1 défaite. Rublev ferme la marche avec 2 matchs perdus. Tout se jouera lors de la 3e et dernière journée. Dans la nuit de demain à samedi, les 2 premiers sont qualifiés.
Et puis de la voile, et c'est toujours, c'est normal, très serré en tête du Vendée Globe 2024.
La tête de la course a atteint en ce moment l'archipel portugais de Madère, à l'ouest du Maroc. Au dernier pointage, le bras de fer continue. Johan Richomme sur Paprec Arkea a repris les commandes aux dépens du favori Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance pour seulement 2000 nautiques. L'anglais Sam Goodchild, un temps leader de la course sur Vulnérable, est désormais 3e à un peu moins de 5000 nautiques du leader. A noter que Nicolas Lundven sur Holcim PRB a impressionné hier. Le skipper a battu le record de la plus longue distance parcourue en 24 heures à bord d'un Imoca, soit 546,60 000 nautiques. Il est désormais 5e.